L'une des finalités des présents dialogues d'Athènes est de réfléchir sur les continuités et les ruptures qui existent entre, d'une part, la civilisation de la Grèce ancienne, l'une des sources fondamentales de la civilisation occidentale, et, d'autre part, les problèmes du monde actuel. La Grèce ancienne, notamment au 5e siècle avant Jésus-Christ, 10 siècles de Périclès, a été dans bien des domaines de la pensée, de la culture et de l'art un commencement, c'est-à-dire une rupture avec le passé. Cela est bien connu pour des domaines dont certains ont été abordés dans les autres sessions, à savoir l'histoire, la rhétorique, la politique, sans parler des arts du spectacle, tragédie ou comédie. Mais ce qui est moins connu, mais a été bien souligné par le chancelier Gabriel de Broglie lors de la cérémonie inaugurale, c'est que ce siècle de Périclès fut aussi la période où la science est née, que ce soit la science mathématique ou la science de l'homme. Il est significatif à cet égard de constater qu'il y a eu deux Hippocrates célèbres à cette époque-là, l'un mathématicien, Hippocrate de Chios, et l'autre, médecin, Hippocrate de Cos. La grande différence entre la destinée de ces deux grands savants tient en partie au hasard de la transmission des textes. Les écrits du mathématicien, qui fut un précurseur d'Euclide, ont été perdus et son nom n'est plus connu sauf des spécialistes, alors que le médecin, le célèbre Hippocrate, a été doté d'une soixantaine de traités médicaux qui ne sont pas tous l'œuvre d'un seul homme, ni même d'une seule école médicale, mais qui présentent assez de cohérence entre eux pour avoir été attribués par la tradition à un seul et même génie. C'est ainsi qu'Hippocrate de Cos est traditionnellement considéré comme le père de la médecine, de même qu'Hérodote d'Halicarnasse est dit le père de l'histoire. Certes, de telles formules frappantes ont leur part d'erreur. L'impression de rupture vient en partie du fait que les écrits de leurs prédécesseurs ont été perdus, ce qui introduit une discontinuité en partie illusoire et risque de minorer le rôle de la continuité. Mais en même temps, pour en rester à la médecine, des aspects nouveaux apparaissent dans les œuvres d'Hippocrate par rapport aux médecines orientales ou égyptiennes. Par exemple, le rejet de la magie, l'affirmation d'une causalité rationnelle qui régit la maladie ainsi que son traitement, et une conception des lois de la nature où l'homme s'inscrit déjà dans son environnement. Mais ce qui est le plus nouveau, c'est que les médecins ne se sont pas contentés de suivre une tradition séculaire, mais qu'ils ont observé avec minutie les malades et surtout réfléchi avec acuité sur l'exercice de leur métier, sur leur technique, mot grec qui signifie encore au 5e siècle avant Jésus-Christ à la fois l'art et la science. Une telle réflexion sur la finalité de leur art et sur les relations avec le malade débouche sur l'éthique de la profession médicale. À cet égard, le serment hippocratique, familier à toutes les générations de médecins, est exemplaire pour illustrer le problème essentiel qui est posé dans ces dialogues d'Athènes, à savoir le rapport entre le passé et le présent. En quoi ce texte exemplaire, qui était déjà juré par de futurs médecins au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'aube de la médecine occidentale, peut encore avoir un sens à l'époque moderne, malgré les progrès de la médecine qui ont rendu dépasser les théories médicales d'Hippocrate ou de Galien depuis au moins le milieu du XIXe siècle. Pour aborder correctement le problème de la relevance sociale d'un texte antique, ce qui est toujours une affaire délicate, il me paraît nécessaire de poser une condition sine qua non, indispensable. C'est faire une analyse préalable, philologique et historique de ce texte antique dans son époque et dans son lieu social d'émergence, sans préjuger de ce qu'il peut signifier dans le monde actuel, ou, si l'on préfère, afin de juger en connaissance de cause de ce qu'il doit signifier dans le monde moderne. Dans sa fonction originelle, le serment hippocratique apparaît comme le reflet d'une époque où, dans la famille des Asclépiades de Kos, une évolution, voire une révolution, se produisit. La médecine était enseignée traditionnellement de père en fils dans cette famille qui prétendait remonter à Asclépios. Or, par suite de la réputation d'Hippocrate, comme le dit Galien, l'art sortit de la famille des Asclépiades. C'est-à-dire que la médecine fut enseignée à des disciples extérieurs à la famille. Ce sont ces nouveaux disciples recevant un enseignement payant qui devait jurer ce serment oral accompagné d'un contrat écrit stipulant d'une part les devoirs de l'étudiant en médecine vis-à-vis de son maître et de ses fils et d'autre part les limites de la diffusion du savoir. Le serment et l'engagement faisaient donc de ces nouveaux disciples des sortes d'enfants introduits par adoption dans la famille. La première partie du serment, stipulant les clauses du contrat du nouveau disciple avec son maître, s'expliquait donc dans un contexte social précis. Aussi n'a-t-il pas pu subsister sans changement quand ce contexte a changé. C'est ainsi que la version chrétienne du serment a supprimé ce qui relevait du contrat, car la médecine n'était plus enseignée à l'intérieur des familles et l'enseignement n'était plus réservé à une élite. Toutefois, cette première partie du serment conserve, toute proportion gardée, son actualité. Car cette volonté d'élargir le recrutement tout en garantissant la confidentialité se reproduit encore de nos jours dans les entreprises performantes, qu'elles soient familiales ou non. Elles font remplir à leurs nouveaux ingénieurs une clause de confidentialité jouant un rôle analogue au contrat mentionné dans le serment hippocratique. C'est surtout la seconde partie du serment consacrée au devoir du médecin dans l'exercice de sa profession qui conserve une valeur durable ou partiellement durable. Elle comprend surtout des interdits que je rappelle, ne pas donner de poison, ne pas donner de pessaire provoquant l'avortement. Est-ce encore d'actualité ? Ne pas séduire les femmes ou les garçons, c'est plus d'actualité. Ne rien révéler de ce que l'on voit ou l'on entend. Cette série d'interdits ne doit pas faire perdre de vue l'idéal positif contenu dans d'autres formules telles que « je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement ». La notion positive essentielle est celle de l'utilité du malade. Ce texte du serment devrait être complété pour comprendre dans toute son ampleur l'éthique d'Hippocrate par d'autres réflexions recueillies dans d'autres grands traités du corpus hippocratique. On en retiendra deux, les plus célèbres, qui sont groupées dans le traité des épidémies 1. La première réflexion concerne la finalité de l'art médical, je cite, « Dans les maladies, avoir deux choses en vue, être utile » ou ne pas nuire. Cette maxime parle d'abord de l'utilité du malade comme le serment, mais elle ajoute une nuance importante. Ou ne pas nuire, c'est implicitement une mise en garde contre une thérapeutique trop vigoureuse qui risque de tuer le malade au lieu de le guérir. On sait que cette maxime a évolué dans la tradition latine, qui en a inversé les termes. On la trouve pour la première fois chez Lactance, au IVe siècle de notre ère, et j'ajoute dans un passage que je n'ai vu cité nulle part ailleurs. Primum est enim non nocere, proximum prodesse. La première chose, en effet, est de ne pas nuire, et la seconde, immédiatement après, est d'être utile. On ne retient d'ordinaire que le primum non nocere, d'abord ne pas nuire, sans savoir d'où la maxime provient. L'inversion des termes implique une modification en apparence légère, mais en fait profonde, de l'attitude du médecin. Le négatif l'emporte sur le positif, et l'on s'achemine ainsi vers le principe moderne de précaution dont on connaît les excès actuellement. La seconde réflexion que je voudrais citer, toujours tirée du traité des épidémies, concerne les relations du médecin, du malade et de la maladie, ce que l'on a appelé le triangle hippocratique. La voici. L'art s'effectue à travers trois éléments qui le composent, la maladie, le malade et le médecin. Le médecin est le serviteur de l'art. Il faut que le malade s'oppose à la maladie avec l'aide du médecin. La subtilité hippocratique met le malade et non pas le médecin au centre du processus médical. C'est le malade qui doit combattre la maladie, le médecin étant son aide. Le malade, vu par Hippocrate, est donc tout sauf un patient au sens étymologique du terme. Car le médecin sait combien il est important que le malade ne subisse pas la maladie, mais agisse contre elle en ayant confiance dans la compétence de son médecin. Après cette présentation de l'éthique hippocratique dans son contexte ancien, on peut en venir à la grande question attendue par les organisateurs des dialogues d'Athènes. Que reste-t-il de cette éthique hippocratique dans la médecine moderne ? Le serment hippocratique est sans doute le meilleur exemple que l'on puisse trouver de la relevance sociale d'un texte antique. Il est resté le texte fondamental de l'éthique médicale dans la médecine occidentale jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais les progrès de la médecine moderne ont fait qu'à partir de 1947, les textes de référence que je ne puis tous énumérer dans cette version orale, mais que vous trouverez dans la version écrite, se sont multipliés. Le serment d'Hippocrate a été réécrit sous la forme du serment de Genève, adopté par l'Association médicale mondiale à partir de 1948, avec des révisions en 1968 et en 1983. J'ai donné le texte de ce serment dans ma communication écrite, et il serait intéressant de comparer la rédaction de ces deux serments, l'ancien et le nouveau. La différence la plus évidente porte sur la laïcisation de l'éthique médicale. Il n'y est plus question non plus du contrat du disciple. Et l'adoption dans une famille médicale est remplacée par l'entrée dans la profession médicale. En revanche, la déontologie est fondamentalement la même avec des suppressions ou des adjonctions mineures. De toute façon, même si le serment est encore prononcé comme une sorte de rite de passage de l'étudiant qui entre dans la profession médicale, il n'a aucune valeur légale. Ce qui était au départ dans l'Antiquité un serment dans un milieu médical privé, une grande famille de médecins, a été remplacé au niveau national, vous me pardonnerez de prendre l'exemple de la France, par le code de déontologie médicale. Ce code sert non seulement de guide pour les médecins dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi de jurisprudence pour la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins. Bien évidemment, ce code a conservé des correspondances avec la déontologie hippocratique, notamment le fameux secret médical qui est directement hérité du serment hippocratique, mais aussi la droiture de la conduite du médecin même si le vocabulaire se vidant de toute connotation religieuse a remplacé le mot grec « agnos kai osios » purement par un mot plus neutre « probité ». On y retrouve aussi l'équivalent de la maxime hippocratique « être utile ou ne pas nuire ». Toutefois, la dernière phrase du serment sur l'interdiction de donner un PCR provoquant l'avortement sans être remise fondamentalement en cause a été modifiée en France par la distinction entre l'interruption illégale et l'interruption légale de grossesse qui relève de la partie législative du Code de santé. Cependant, malgré les concordances entre l'ancien serment et le Code actuel de déontologie, les développements considérables de la science médicale moderne et de l'expérimentation sur l'homme par rapport à l'Antiquité, joints au développement des sciences de la société, ont renouvelé les problèmes éthiques. C'est assez récemment que l'impact et la pression des progrès scientifiques ont entraîné une rénovation de la réflexion éthique en médecine. Le signe le plus tangible en est la création de comités éthiques nationaux ainsi que la multiplication d'ouvrages sur la bioéthique médicale. La France a été le premier pays à créer en 1983 un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Une des conséquences de cette rénovation est que la réflexion sur l'éthique médicale, auparavant circonscrite à une minorité de professionnels, de législateurs ou de philosophes, est devenue une question de politique et de société. Il va de soi que les grands problèmes bioéthiques actuellement discutés peuvent être facilement énumérés, qu'ils concernent les deux moments décisifs du début ou de la fin de la vie, les progrès technologiques du diagnostic, du pronostic ou de la thérapeutique, et surtout, l'expérimentation sur le vivant. Mais les solutions se caractérisent par la diversité et la mouvance. Diversité parce que les lois de la bioéthique peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. Mouvance car les lois bioéthiques évoluent à l'intérieur d'un même pays par une tension permanente entre les progrès de la science et les impératifs catégoriques de l'éthique. En France, la loi de bioéthique de 2005 est révisée actuellement. Cette mouvance moderne, datant de moins d'un demi-siècle et s'accélérant, s'oppose à tous les siècles passés où l'éthique pouvait rester inchangée malgré les progrès de la science médicale. La raison en est, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que les progrès de la science en arrivent désormais à intervenir directement sur les processus de la vie. Au niveau de l'éthique et de la recherche relative à l'expérimentation sur le vivant, la fixité des règles du serment hippocratique est donc complètement dépassée. Il faut prendre conscience de cette rupture. Mais malgré toutes ces questions bioéthiques suscitées par l'intervention de l'art dans le processus de la vie, si capitale soit-elle, il demeure que le message hippocratique reste très actuel dans la pratique quotidienne de la médecine. Il reste à souhaiter que les étudiants en médecine, futurs praticiens, auxquels manque souvent la dimension historique de l'éthique médicale, incorporent le message hippocratique dans leur pratique en réinstaurant le malade au centre du processus médical sans sacrifier le dialogue avec lui au profit de la tyrannie du chiffre. On parle actuellement de médecine de proximité, mais la proximité n'est pas seulement la proximité locale de l'hôpital, elle est aussi et surtout la proximité dans le dialogue entre le médecin et le malade. Les progrès de la science n'ont pas comme conséquence inéluctable la perte du sens de l'humain. Je vous remercie.